Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ECHO, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. » 76, c'est le nombre de musiciens professionnels qui composent la musique de la Marine nationale. Une formation imposante, complète, avec une diversité de profils qui permet de couvrir un large champ de styles musicaux. L'orchestre est avant tout utilisé lors de cérémonies militaires, mais c'est aussi varié son répertoire. Alors, quelle est l'histoire de cette institution centenaire? À quoi sert-elle en temps de conflit? Et surtout, comment s'adapte la musique de la Marine nationale à l'ère du numérique? Pour en parler, le CESM a le plaisir de recevoir Monsieur Kosmicki, chef de musique principale, ainsi que Maître Tania, flûtiste dans l'orchestre. Bonjour et bienvenue dans ECHO.
Bonjour.
Alors, on l'a brièvement dit en introduction, mais la musique de la Marine nationale est une institution qui sera bientôt bicentenaire. Monsieur Kosmicki, je commence par vous. Vous êtes le chef d'orchestre de cette musique. À partir de quelle période cette musique apparaît-elle, du coup ?
À l'époque de la marine à voile, durant l'Ancien Régime, les musiciens à bord étaient un précieux auxiliaire du commandant. Ils avaient pour tâche de transmettre les ordres, de décomposer les manœuvres que rythmaient par ailleurs les chants des marins. Et outre cette présence fonctionnelle, posséder un musicien de qualité technique supérieure était aussi une manière d'asseoir son prestige. On trouvait alors des musiciens qui appartenaient à l'équipage, jouant du fifre et du tambour, et des musiciens commissionnés, payés par les officiers.
D'accord. Et est-ce qu'on a un peu une idée des grands noms, potentiellement, de cette musique de la Marine nationale ?
À cette époque, il n'y a pas de traces de noms à l'Ancien Régime, et il faut attendre quelques décennies pour avoir des noms, d'ailleurs, qui se trouvent sur le tableau. Les seuls noms connus se trouvent sur le tableau.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns, par exemple ?
Un grand chef de la musique, qui était à l'époque de la musique des équipages de la flotte de Toulon, était Jules Semler-Collery, qui était également compositeur et qui a quand même œuvré pour le répertoire militaire de la Marine nationale.
Ok, une institution bientôt bicentenaire, ça a été créé.
Alors 1827 marque un tournant puisque l'État décide de prendre en charge leur entretien et les musiques de la marine font partie de cette réorganisation. Par décret du 13 juillet 1827 sont créées deux musiques, la musique des équipages de la flotte de Brest et la musique des équipages de la flotte de Toulon.
C'est ça, donc il y avait deux musiques qui ont été créées suite à un décret, du coup.
Voilà, le décret de 1827.
D'accord, et ensuite, comment est-ce que ça s'est structuré? Elles ont évolué chacun dans leur coin
Toujours par décret, en 1851, un nouveau décret consacre la primauté des musiques de Brest et de Toulon, qui deviennent les seules musiques à terre de la marine. Chaque musique est constituée d'une partie sédentaire et d'une partie mobile, rassemblant les musiciens appelés à servir alternativement à terre et en mer.
D'accord, donc oui, il y a une relative polyvalence entre des musiciens.
C'est ça. Et les effectifs commencent à se préciser puisqu'ils sont constitués de 42 musiciens pour la partie sédentaire et 45 pour la partie mobile.
C'est quand même assez important. Est-ce qu'il y a un élément clé, une espèce de bataille qui sert un peu de marqueur où la musique de la Marine nationale, par exemple, s'est illustrée?
Non, il n'y a pas de bataille dans laquelle la musique de la Marine nationale s'est illustrée. Je parlerai peut-être plus de période faste qui est marquée par ce décret de 1827 où l'État prend en charge ces deux musiques et permet en quelque sorte une évolution progressive des effectifs. Les musiques sont essentiellement attachées à la vie locale, à la vie toulonnaise, et c'est vraiment ce qui fait la marque de la musique des équipages de la flotte de Toulon.
Et vous avez dit un mot qui est clé, qui est important et qui est intéressant, c'est le terme d'effectif, c'est-à-dire comment est-ce que les effectifs des musiciens ont-ils évolué depuis 1827 notamment ?
On n'a pas trop d'archives sur ces évolutions. Un élément important concerne la réforme d'Adolphe Sax, qui est un facteur d'instruments belge qui est venu s'installer à Paris dans les années 1830, qui a œuvré considérablement pour renouveler les instruments qui était à l'origine essentiellement utilisé dans les orchestres militaires. Et le but de la réforme de Sax était de produire des instruments qui étaient capables d'être bien entendus à l'extérieur, notamment avec la création des saxophones ou encore qu'on appelle la famille des saxhornes.
D'accord. Et une des particularités aussi des musiques de la Marine nationale, c'est que c'est d'abord et avant tout une formation militaire.
Oui. Alors qu'entendez-vous par d'abord ?
Comment dire ? Les musiciens sont avant tout marins et militaires.
Oui, tout à fait. Les musiciens sont militaires. Ils ont le statut du militaire. Ce sont des musiciens de haut niveau qui sont recrutés avec des prix de conservatoire supérieur ou d'école supérieure.
Ils suivent une formation militaire aussi.
Ils suivent une formation militaire. Ils sont recrutés sur concours.
Dans quel contexte est-ce que cette musique de la Marine nationale est-elle principalement employée ?
Je dirais que c'est avant tout une polyvalence d'emploi. riche tant par sa diversité du métier et son emploi que par son répertoire. Ses actions sont diverses et se réalisent au travers de concerts, de parades, de cérémonies, d'obades, de festivals ou d'événements privés.
Très bien, et comment est-ce que ça se passe quand vous devez faire des représentations à l'étranger notamment ?
Ce sont très souvent lors de tattoos. Les tattoos sont des festivals internationaux de musique militaire. Ce sont de véritables shows avec projecteurs et jeux de lumière qui regroupent des centaines de musiciens militaires de différents pays qui s'illustrent dans des démonstrations artistiques, des performances musicales et des chorégraphies. Et à la fin des performances de chaque musique militaire, tous les musiciens se rassemblent pour un final assez extraordinaire. Ils jouent tous ensemble différents morceaux et très souvent, des groupes de musique actuelle, des chanteurs de renommée internationale sont invités. Et c'était le cas lors de notre dernier tattoo en Lituanie en août dernier.
D'accord, et à ce moment-là, Maître Tania, vous étiez également présente pour ces représentations.
Oui, exactement. Oui.
Comment ça s'est passé du coup ?
Alors, on a eu une préparation en amont. On a commencé à travailler dès le mois de juin pour le festival en août. Donc on a répété, on a travaillé et ensuite on est parti en avion pendant une semaine là-bas. On a encore répété sur place pour réaliser ce tatou.
Et l'ambiance était bonne à bord ? Comment ça se passe ?
Oui, bah alors après on est... On a l'habitude de partir ensemble lors de déplacements, donc forcément les liens se créent. Donc l'ambiance était très bonne, oui.
D'accord, ok. Et d'ailleurs, il arrive des fois que certains musiciens soient présents à bord de bâtiments de la Marine nationale. Comment ça se passe ?
Oui, les musiciens peuvent être à bord de bâtiments de la Marine nationale, notamment lors de cérémonies importantes, comme c'était le cas lors de la cérémonie de passation de pouvoir des deux chefs d'état-major de la Marine, en présence du ministre des Armées.
D'accord. Et donc, dans ce cas-là, c'est une musique qui sert d'accompagnement, qui sert pour le cérémonial.
Voilà, tout à fait. La musique sert le protocole avec les sonneries réglementaires inhérentes au cérémonial de la marine.
Et quelle part la représentation cérémonielle et protocolaire représente-t-elle dans l'ensemble de vos activités ?
Les deux missions de la musique de la marine sont le cérémonial, comme vous l'avez dit, ainsi que le rayonnement de la marine nationale. Et on peut trouver grosso modo 50% de cérémonie contre 50% de rayonnement.
Oui, c'est vos quotidiens, vos journées, elles sont rythmées soit par du rayonnement, soit par
voilà,
la cérémonie.
Voilà, le rayonnement avec la part inhérente de préparation des concerts, des obades, des tattoos, etc. Une préparation très intense pour la meilleure réalisation de ces prestations.
Est-ce que vous pouvez détailler un peu comment est-ce que ça se passe en interne ?
Alors, il faut voir deux choses. C'est-à-dire que, par exemple, pour la préparation d'un concert, on va avoir la préparation personnelle, déjà, de la partition. Donc ça, c'est un travail qu'on fait soit à la maison, soit dans les locaux de la musique. Donc là, on a les partitions, on les travaille déjà tout seul, avec des enregistrements, sans des enregistrements, pour vraiment nous aiguiller dans ce travail-là. Et ensuite, on a des répétitions avec la formation de la pièce pour le concert. Et donc là, en général, on travaille par session, d'une dizaine de jours avant un concert, où on va travailler toutes les matinées.
Pour revenir un peu au sujet du podcast, la musique de la Marine nationale est confrontée à l'émergence du streaming. On dit adieu au bon vieux CD, il faut passer à YouTube et à la captation audio et visuelle. Comment est-ce que ça vous impacte, vous, au quotidien, notamment ?
Nous avons en quelque sorte pris certaines mesures visant à enrichir notre bibliothèque sonore. Cela se concrétise par l'enregistrement sonore de chaque concert afin d'avoir de la matière enregistrée exploitable pour des vidéos, des CD, des extraits pour la radio ou même pour ce podcast. Nous devons être capables de diffuser des enregistrements de concerts ou d'œuvres interprétées par la musique de la Marine nationale. Et actuellement, nous sommes également en train de rechercher comment être visible sur les plateformes d'écoute en ligne. C'est aujourd'hui une démarche indispensable pour avoir cette visibilité qui s'inscrit également dans le rayonnement de la Marine nationale. Les modes d'écoute ont bien évolué et nous devons nous y adapter.
Oui, une nécessité d'adaptation qui implique de passer à la partie vidéo. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que vous embauchez par exemple des gens pour faire la captation vidéo lors de cérémoniales ? Comment ça se passe en termes de...
Oui, nous faisons appel à certains services comme la Fousit pour les captations vidéo pour permettre d'enrichir notre bibliothèque.
On fait aussi des vidéos en interne. Hein.
C'est-à-dire ?
On a une cellule de communication au sein de l'orchestre qui est tenue par des musiciens. Et donc parfois pour des petites vidéos, des courtes vidéos ou des montages assez simples, on fait aussi appel au talent de certains musiciens.
Sachant que la durée d'attention est relativement variable, est-ce que vous concevez typiquement des morceaux en vue d'être pensés pour la vidéo ? C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que la captation visuelle impacte votre manière de créer des morceaux ?
pas de créer, mais d'enregistrer des morceaux, effectivement, avec l'émergence de TikTok et des formats courts correspondant au nouveau temps d'attention, nous avons priorisé la création de shorts et de réels afin de toucher une cible plus grande et active sur les réseaux sociaux. Ils fonctionnent un peu comme des teasers pour nos concerts et comme des rétrospectives des cérémonies pour montrer notre diversité d'emplois. En dehors de ce genre de vidéos, nous réalisons aussi des vidéos coulisses pour faire découvrir la préparation d'un concert, d'une cérémonie ou d'un tatou. Mais nous varions aussi les contenus avec des formats plus longs, des reportages à destination de YouTube. Et actuellement, nous préparons un reportage sur la création Chesapeak qui sortira en même temps que le CD.
Et c'est prévu pour quand, du coup, cette...
La sortie du CD Chesapeak est prévue pour mars-avril, nous l'espérons.
Un de vos enjeux, potentiellement aussi, c'est de toucher les jeunes. Ça représente une cible de choix potentiellement pour vous.
Oui, bien sûr, cibler la jeunesse fait partie également de nos objectifs. Le recrutement, d'ailleurs, de la marine cible forcément la jeunesse. Et nous sommes un véritable vecteur de communication et de rayonnement pour pouvoir cibler cette jeunesse. Les tatous, comme nous l'avons évoqué, en fait, permettent un rassemblement de foule assez important. Et il est d'autant plus lorsque les tatous font appel à des chanteurs locaux, des célébrités nationales ou internationales qui viennent se conjuguer avec les musiques militaires. Dès lors que cela est rendu possible, en fait, on donne l'image d'une armée dynamique et tournée vers la jeunesse.
D'accord, et ça permet de parler également de vous, Maître Tania. Vous êtes, je le rappelle, flûtiste au sein de l'orchestre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours ?
Alors, j'ai eu une formation dans les conservatoires, dans un conservatoire à Paris, dans le Pôle supérieur de Paris. Donc j'ai eu ma formation là-bas et on était préparés en fait à passer des concours d'orchestre où on avait aussi des préparations pour devenir prof dans les conservatoires. Enfin voilà, on avait vraiment une formation générale qui nous permettait ensuite de se spécialiser. Moi, je me suis vite spécialisée dans les concours d'orchestre que j'ai passés. J'en ai passé plusieurs et au bout d'un moment, il y a eu un poste qui s'est libéré au sein de la musique de la Marine nationale que j'ai présenté et que j'ai réussi. Donc c'est un petit peu le hasard de la vie qui a fait qu'aujourd'hui je suis ici.
Et ça fait combien de temps que vous êtes ici du coup ?
Ça fait bientôt 9 ans.
Et qu'est-ce qui vous a attiré ? C'est la militarité peut-être ?
Non, vraiment, comme je vous disais, c'était vraiment une période où je passais tous les concours possibles au sein des orchestres, que ce soit des orchestres civils ou militaires. Et donc au début, c'était vraiment l'emploi dans un orchestre qui m'a intéressée. Ensuite, j'ai découvert ce que c'était qu'une musique militaire en rentrant dans celui de la Marine nationale.
Et c'est intéressant ça. Quels sont les spécificités de la musique militaire ?
Eh ben, c'est la diversité d'emplois. On fait des concerts, donc ça c'est sûr. On fait des cérémonies, on fait des obades, on fait des tatous. Ça nous permet vraiment de toucher à plusieurs types de production de la musique et donc d'avoir un emploi qui est très varié.
Comment vous avez pris le côté, la partie un peu militaire de la chose ? Avec du recul.
Alors, il faut savoir que ce n'est pas forcément toujours évident quand on vient du civil, parce qu'il y a un cadre d'emploi et dans lequel il faut se plier. Mais une fois qu'on a ces acquis-là, on peut quand même continuer à faire notre métier de musicien dans ce cadre-là.
D'accord. Et sachant quand même que la marine, il y a une hiérarchie, comment est-ce que vous, au sein de l'orchestre, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que tout le monde est musicien et puis,
Alors, tout le monde est musicien, mais on a quand même des grades. Avec une évolution des grades. Après, notre emploi prime sur le grade, c'est-à-dire que, par exemple, quand je suis première flûte à l'orchestre, j'ai la possibilité de m'adresser à mes collègues, quel que soit leur grade, et de pouvoir travailler. On a en plus un fonctionnement de travail de pupitre, de petite équipe, que finalement, quelqu'un qui aurait un grade supérieur pourrait se permettre de plus faire travailler l'autre collègue, vraiment.
D'accord. Et c'est intéressant, ça permet aussi d'aborder les perspectives d'évolution. Comment est-ce que vous projetez
En fait, on n'a pas réellement d'évolution, à proprement parler, parce qu'on est déjà très spécialisé. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ça fait 9 ans bientôt que je suis à l'orchestre où je suis flûtiste. Je suis toujours flûtiste aujourd'hui. Et dans 10 ans, je serai toujours flûtiste dans cet orchestre-là. Donc en fait, en termes d'emploi, je n'ai pas réellement d'évolution. Après, on a la possibilité de passer le brevet supérieur qui nous permet d'être de carrière et aussi d'avoir des fonctions dites annexes à notre emploi principal. Celui, par exemple, pour ma part, d'être dans la cellule communication.
D'accord. Et vous voyez continuer dans la musique
Le plus longtemps possible, oui. Tant que je pourrai jouer de la flûte.
Il y a une bonne ambiance, du coup, on l'imagine bien au sein de l'orchestre.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de... Comme je vous disais, on a pas mal de déplacements, donc ce qui, forcément, ça resserre les liens. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de possibilités de se retrouver avant les concerts, après les concerts, pendant les concerts. Ça crée forcément des liens de jouer de la musique tous ensemble quand on est à peu près 70 à jouer... Il se passe quelque chose de particulier.
Est-ce que vous faites des exercices militaires de temps à autre ou pas ?
Non, les musiciens ne font que leur spécialité de musicien. En dehors, bien sûr, des tests physiques annuels, le musicien ne s'exerce et ne travaille que son instrument.
Oui, c'est ça, mais il y a quand même un aspect hygiène de vie que vous gardez et qui est hérité de la militarité.
Bien sûr, tout à fait, comme le système général des militaires, bien évidemment. Mais le musicien garde sa spécialité de musicien toute sa carrière.
Très bien, ok, c'est intéressant et ça permet aussi de parler. On a parlé de divers sujets dont un des enjeux, c'est de prendre en compte les nouveaux modes de consommation. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux auxquels vous êtes confrontés au sein de la musique de la Marine nationale?
Je pense que comme dans les armées et d'autres secteurs, je pense que le recrutement est un enjeu quand même assez conséquent. Nous sommes également impactés par ce problème, mais nous mettons en place des campagnes d'information dans les conservatoires sur ce qu'est le métier de musicien militaire, car les élèves dans les conservatoires n'ont pas toujours la bonne information sur ce métier. Nous donnons également des concerts dans ces lieux afin de nous faire connaître davantage des jeunes élèves qui, demain, pourront intégrer les rangs de la musique de la Marine nationale. Enfin, et c'est pour moi indispensable, et comme le soulignait le maître Capstick, il est impératif que le musicien de la Marine nationale s'épanouisse dans son travail. Je suis tout simplement persuadé que le musicien militaire est le meilleur recruteur pour notre formation. Le monde de la musique est petit, tout le monde se connaît, ou presque. Qu'ils s'épanouissent au sein de notre formation est indispensable pour notre recrutement et donc pour pérenniser notre formation qui, je le rappelle, est unique.
C'est intéressant et ça permet, on va conclure avec ça. Monsieur Kosmicki, vous avez pris vos fonctions il n'y a pas longtemps, en septembre 2023. Qu'est-ce que vous comptez faire avec cet orchestre dans les prochaines années? Quels sont un peu les grands projets qui vont vous animer, par exemple? Et s'il y a des grands projets, enfin... Comment est-ce que vous projetez?
Oui, il y a bien évidemment de grands projets qui m'animent, et notamment tourner la musique de la Marine nationale vers la jeunesse. Ça, c'est vraiment l'un des grands projets. Donc, cibler la jeunesse, c'est pour moi quelque chose d'important. Il faut simplement s'adapter à la société pour pouvoir les attirer. S'adapter, c'est proposer un alliage nouveau qui, jusqu'à présent, ne s'est pas encore fait, c'est-à-dire s'allier de la voix humaine et s'allier de célébrités nationales ou international, c'est le seul moyen pour attirer les jeunes pour venir écouter nos concerts et donc pour avoir ce premier lien avec la Marine nationale. Nous sommes un véritable vecteur de communication et de rayonnement de la Marine nationale. Il faut l'exploiter à bon escient et jusqu'au bout pour pouvoir permettre ce recrutement et être tourné vers la jeunesse.
Est-ce que mélanger des répertoires de musique actuelle avec celui de la musique de la Marine nationale, par exemple, est-ce que ça peut faire partie de ces nouveaux mélanges pour s'adresser aux jeunes générations?
Oui, bien sûr. Il faut impérativement passer par cette restructuration, enfin cette nouvelle perspective. Il faut le faire de manière intelligente, en construisant un programme adapté et qui soit tout à fait pertinent pour le public.
Très bien, eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Monsieur Kosmicki, je rappelle que vous êtes chef de musique principal de l'orchestre de la musique de la Marine nationale. Merci également à vous. Maître Tania, je rappelle que vous êtes flûtiste dans l'orchestre de la musique de la Marine nationale. Et d'ailleurs, on va faire comme pour l'épisode précédent, c'est-à-dire on va se quitter en musique. N'hésitez pas à faire un tour sur Instagram, Facebook et YouTube, on vous tague, c'est musique de la Marine nationale.
Exactement, oui.
Très bien. Merci enfin à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Déco, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.